Bonsoir à vous, chers auditeurs. Très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième rencontre sur notre méditation sur la femme et la place qu'elle a dans le cœur du Seigneur. Alors, bien évidemment, cette année, nous allons lire quasiment exclusivement, sauf exception, les évangiles. Et je voulais peut-être avant, avec vous, faire un petit retour pour préciser quelques petites choses qui sont un petit peu techniques. En ce qui concerne les évangiles, parce que je ne voudrais pas que vous soyez déstabilisés inutilement si je vais un petit peu trop vite. Alors, en fait, lorsqu'on dit les évangiles, vous savez qu'il y en a quatre. Sur les quatre, il y en a trois qui se ressemblent, hein, qui sont l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. Donc ces trois-là se ressemblent. Et il y a l'évangile de Jean qui est différent, qui n'est pas du tout organisé de la même façon. Voilà, donc nous avons, et vous avez certainement remarqué que même chez Marc, Matthieu et Luc, le texte n'est pas toujours le même, les épisodes qui sont racontés ne sont pas exactement les mêmes, il y a parfois des différences, vous avez certainement remarqué toutes ces choses-là. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait qu'ils soient si différents, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est plutôt un signe de ce que c'est authentique et réel. Parce qu'il y aurait quatre évangiles qui contiendraient exactement tous la même chose, bien évidemment, on se dirait qu'ils se sont copiés les uns les autres. Alors que ce qui s'est passé dans le cas des évangiles, c'est très différent. Ce sont des textes qui ont été écrits à des moments différents et par des personnes différentes. Alors même si les évangiles ont tous été rédigés dans le premier siècle, c'est-à-dire le siècle de la naissance de Jésus, eh bien, ils ont été rédigés à des moments différents dans ce siècle, hein, ils sont plus ou moins proches, et ils ont été rédigés par des personnes différentes. Donc, lorsque l'on sait ça, il est facile de comprendre pourquoi est-ce que tous les textes ne disent pas exactement la même chose. Si je prends l'exemple d'un événement, quel qu'il soit, hein, vous avez trois personnes qui assistent à cet événement, eh bien, aucune des trois personnes ne racontera l'événement exactement de la même façon, parce que chacun va y mettre quelque chose de lui-même. Chaque personne va être sensible, plus ou moins sensible à certains détails. Certains seront plus sensibles au temps qu'il faisait, au bruit, aux personnes. Voilà. Donc, vous avez bien compris que si les évangélistes nous racontent certains épisodes de façon différente, c'est tout simplement parce que chacun d'entre eux les a vécus et les a médités de façon différente. Hein, les évangiles, ce n'est pas un récit journalistique écrit au jour le jour. Hein, il n'y avait pas quelqu'un qui suivait Jésus et qui notait au fur et à mesure. Il y a eu tous ceux qui étaient disciples de Jésus, qui l'ont écouté, qui ont peut-être pris quelques notes, mais vous savez, c'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas du papier et des crayons. Voilà, tout cela est un petit peu compliqué à expliquer en 5 minutes, mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour ce qui concerne les évangiles, eh bien, chaque évangéliste a manifesté sa foi en racontant d'une façon personnelle, d'une façon qui lui est propre, des événements qui sont les mêmes. Si je fais une introduction un petit peu longue en vous expliquant tout cela, c'est que vous allez m'entendre souvent, je vais sauter d'un évangile à l'autre, je vais citer Marc, Matthieu, Luc, Jean, et je ne voudrais pas que vous soyez perturbés, je ne pourrais pas faire autrement parfois par souci d'exactitude, hein, de justesse, mais je ne voudrais pas que vous soyez déstabilisés parce qu'il va m'arriver de me servir parfois de deux versions différentes d'un même événement et parfois nous verrons que certains événements sont racontés exactement de la même façon chez tous les évangélistes. Voilà, je vais essayer de ne pas vous noyer dans des détails techniques et en même temps d'être le plus clair possible et de vous expliquer les détails parfois des textes. Et puis parfois, eh bien, il faudra me faire confiance. Parfois, j'affirmerai des choses tout en vous disant, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas vous l'expliquer en détail parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Donc, il faut me faire confiance et me croire lorsque je vous dis telle ou telle chose. Voilà, c'était ma petite introduction pour que vous ne soyez pas perturbés par des détails qui finalement n'ont pas beaucoup d'importance. Alors, ce que nous allons faire cette année, à travers la lecture des évangiles, nous allons poser des petits cailloux, comme le petit poussé, mais finalement, je me dis que je préfère, j'avais pensé à l'image des petits cailloux, mais je préfère l'image des pièces d'un puzzle que nous allons assembler ensemble au fur et à mesure, et que grâce à ce puzzle, nous pourrons ensemble entrer dans la contemplation de la personne du Christ, parce que c'est bien le but ultime de toute notre vie de foi, hein, c'est de contempler la personne du Fils, la personne du Père, la personne de l'Esprit. Voilà, nous sommes faits pour cela. Et nous allons nous contempler la personne du Christ dans la relation tout à fait particulière qu'il entretient avec les femmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais aussi évacuer, si vous me le permettez, une question assez sensible, qui est celle de la supposée épouse ou femme de Jésus. Alors, vous avez certainement tous entendu parler de ce sujet, tout a été dit, et je dirais tout et n'importe quoi, si vous me pardonnez cette expression un petit peu lapidaire. Tout simplement parce que l'idée que Jésus aurait été marié ne repose sur aucune piste sérieuse. Nulle part, jamais, rien dans les évangiles ne permet de le supposer, de le dire ou de le penser. Les seules traces que nous trouvons d'un Jésus qui se serait marié se trouvent dans ce que l'on appelle des textes apocryphes, c'est-à-dire des textes qui ne sont pas reconnus par l'Église, hein, quel que soit leur intérêt historique, ils ne sont pas reconnus comme portant la foi de l'Église, et surtout des textes, les textes apocryphes ont, dans la majorité d'entre eux, été rédigés bien après les évangiles, bien après la vie terrestre de Jésus, puisque l'on a des rédactions qui datent du 3e, 4e siècle. Et vous voyez, lorsque je vous parle de la rédaction des évangiles, nous sommes dans le 1er siècle. Donc il y a eu beaucoup un grand écart de temps, et il y a beaucoup de légendes concernant la personne de Jésus qui ont été mises en place plusieurs siècles après pour combler les interrogations. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette légende, cette idée de Jésus qui aurait eu une femme, qui aurait été mariée, alors certains disent avec Marie-Madeleine, d'autres, j'ai lu aujourd'hui que certains prétendent qu'il était veuf, marié et veuf. Bon, ce sont à mon sens, pardonnez-moi de le dire de façon aussi brutale, des élucubrations. En fait, ces légendes sont nées dans des communautés chrétiennes, des premiers siècles de l'Église, mais des communautés chrétiennes que l'on appelle en histoire les communautés hérétiques, c'est-à-dire des communautés qui n'avaient pas eu une évangélisation complète et qui essayaient par elles-mêmes de compléter ce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre, ce qu'elles n'arrivaient pas à saisir, ce qu'elles n'arrivaient pas à réfléchir. Hein, leur manque de connaissance de la foi parce qu'elles n'avaient pas n'avaient pas été suffisamment enseignées par les évangélisateurs. Et donc, ces communautés étaient soit ignorantes, soit avaient des difficultés avec certaines affirmations parce qu'elles contredisaient, les opinions générales. Et d'ailleurs, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, puisque nous vivons, nous chrétiens, aujourd'hui exactement la même chose. Voilà, ensuite, l'idée de vouloir marier Jésus, à mon sens, relève un petit peu d'une erreur et d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le célibat. Le célibat n'est pas simplement une privation de quelque chose d'indispensable. Le célibat est vraiment une vocation. Et cette vocation intègre la continence, le renoncement au mariage et comme on dit, aux œuvres du mariage. Mais ce renoncement n'est pas considéré comme une privation et une punition, mais il est l'objet d'une vocation et d'une contemplation et d'une donation de soi-même en tout entier à la personne du Christ. Hein, notre foi est une foi en une personne, ce n'est pas une foi en des idées, ce n'est pas une foi en une philosophie, en une morale. Nous croyons en une personne, le Seigneur Jésus-Christ présent, vivant, ressuscité pour nous. Et moi, j'y vois aussi, à cette question de Jésus qui serait marié, j'y vois aussi une tentative de justifier d'autres affirmations, comme celle, par exemple, selon laquelle Marie et Joseph auraient vécu comme un couple normal après la naissance de Jésus, alors que la tradition de l'Église, depuis les premiers siècles, a toujours proclamé Marie, Mère de Dieu, toujours vierge. Et, ou alors, autre idée soulevée à maintes reprises, qui est bon, celle du mariage des prêtres ou celle de l'ordination des femmes. Mon Dieu, je ne sais quelle idée, mais lorsque le ver est dans le fruit, hein, tout le fruit est gâté, lorsque l'on commence à introduire dans la foi, dans notre foi, des idées aussi fausses, eh bien, notre foi s'en trouve blessée. Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est la façon dont Jésus regarde la femme et comment, par les paroles et les actes qu'il accomplit, il affirme la dignité de la femme. Ça, c'est la première évidence, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont Jésus affirme la vocation bien particulière de la femme et la vocation particulière de la femme dans l'Église. Cette vocation est différente de la vocation de l'homme, mais elle est tout aussi essentielle pour la fécondité de l'Église. Et donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de parler de la condition de la femme de façon intellectuelle. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment nous pouvons méditer sur cette vocation particulière et tout à fait unique de la femme, vocation qui va trouver son accomplissement dans la contemplation elle-même du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce que nous devons retenir de la lecture des évangiles, ce n'est pas lorsque les évangiles nous parlent des femmes, ce n'est pas juste une succession de récits qui va nous montrer la bonté de Jésus, parce que ce serait insuffisant. Non, c'est beaucoup plus important que cela. En effet, les évangiles nous révèlent à leur façon, avec délicatesse, avec finesse, eh bien, les évangiles nous révèlent, au sens fort du mot, la vocation de la femme qui prend naissance dans le cœur même de Jésus. Dans l'Alliance nouvelle, la femme se trouve appelée à une vocation particulière et cette vocation, elle prend naissance dans le cœur même de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à entrer dans cette découverte avec l'un des premiers récits qui met en scène une femme. Alors il s'agit de la guérison de la belle-mère de Simon. Hein, nous trouvons alors cet épisode, nous allons le trouver dans les trois évangiles de Luc, de Matthieu et de Marc. Alors je vous donne vite la référence, Luc au chapitre 4, Matthieu au chapitre 8 et Marc au chapitre 1, c'est un tout petit épisode. Ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de ces évangiles, ce petit épisode, cette petite narration de la guérison de la belle-mère de Simon, eh bien, c'est l'un des premiers miracles, certes, mais c'est aussi un récit, une narration qui est encadrée par des guérisons qui sont très, très significatives dans les évangiles. En effet, lorsque vous regardez ces différents évangiles, vous voyez que la guérison de la belle-mère, elle est placée soit après celle d'un démoniaque, hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui est possédé par le démon ou possédé par des forces démoniaques, après la guérison ou avant la guérison d'un lépreux, ou encore, et c'est une petite différence chez Luc, la conversion et l'admiration d'un païen, hein, puisque dans l'évangile de Luc, il dit c'est un païen qui rencontre le Seigneur juste avant cette guérison de la belle-mère de Pierre. Alors en Luc, donc je vous ai dit au chapitre 4, voilà, Jésus au chapitre chez Luc, il guérit un démoniaque. Il a des guérisons multiples. Alors, excusez-moi, c'est pas dans l'évangile de Luc, mais c'est pas grave. Vous le cherchez, je veux pas perdre de temps avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette guérison de la belle-mère de Simon, qui est une toute petite histoire, est encadrée par des guérisons qui sont extrêmement significatives. Et lorsque l'on lit un texte des évangiles, il faut toujours essayer de voir ce qui vient avant, ce qui vient après. Parce que ça nous donne toujours une indication sur l'importance de ce que nous lisons. Il faut comprendre que dans les évangiles, chaque mot a son importance, chaque virgule a son importance, et même chaque silence nous parle et nous dit quelque chose. Donc dans le cas de la guérison de la belle-mère de Pierre, nous voyons que cette guérison et celle qui encadre la guérison de la belle-mère sont placées au début du ministère de Jésus. Et ce n'est pas un hasard, puisque guérir une femme, guérir un démoniaque ou un païen, eh bien, ces trois guérisons comportent une symbolique très forte. Ce ne sont pas n'importe quel personnage. En effet, ces personnages, eh bien, ils appartiennent à des catégories qui, à l'époque, étaient méprisées par, on va dire, les bien-pensants, si vous me permettez, mais je vais dire par les pharisiens qui sont les spécialistes de la bonne pratique, hein, puisque, et surtout les pharisiens qui attachaient tellement d'importance à la pureté sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient, et donc au respect de toutes les obligations que certains personnages ne pouvaient pas forcément respecter. Hein. Le démoniaque était quelqu'un qui ne pouvait pas accomplir les gestes rituels qui pouvaient le purifier. La femme, elle, par sa nature même, est un personnage qui n'est pas toujours pur. Et puis, le païen, bien évidemment, et quelqu'un qui ne pratique pas tous les gestes rituels qui font que le pharisien considère ou pas que la personne qu'il a en face de lui est digne ou pas. Donc, vous voyez que lorsque Jésus guérit une femme, ce n'est pas une anecdote sans importance, parce que, de plus, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le statut des femmes à l'époque de Jésus, eh bien, ce statut n'était vraiment pas fameux. Je veux dire par là que, comme Jésus le dit d'ailleurs en Matthieu 19, eh bien, le cœur du peuple s'était endurci. Et la loi de Moïse, qui avait été donnée à Moïse pour structurer la vie du peuple de Dieu, cette loi qui était destinée donc, par exemple, à protéger les femmes dans une société où c'était la loi du plus fort qui régnait, etc., Moïse avait mis en place la loi donnée par Dieu, et cette loi imposait certaines formes de respect aux femmes pour qu'elles ne soient pas utilisées au gré des hommes. Mais cet endurcissement du cœur faisait que cette loi, eh bien, elle avait été déformée, réinterprétée, et finalement, le résultat en avait été que les femmes étaient enfermées dans des coutumes qui étaient très dévalorisantes, et en tout cas, elles étaient très souvent malmenées. Alors, il y a un exemple dans l'épisode de la femme adultère vous voyez cet épisode très fameux où on amène une femme adultère et les hommes disent qu'est-ce qu'il faut faire avec cette femme ? Est-ce qu'il faut la lapider ? Or, il faut savoir que dans la loi de Moïse, eh bien, ce n'est pas seulement la femme qui doit être lapidée, mais l'homme aussi, c'est-à-dire que la condamnation touche aussi bien l'homme que la femme. Et vous voyez que là, nous n'avons plus que la femme qui est considérée comme devant être châtiée. Donc, vous voyez comme les coutumes, c'était pesé. C'est ce que dit Jésus, il dit « Votre cœur s'est endurci et donc Moïse ensuite a modifié un petit peu et a adouci la loi parce que vous n'étiez pas capable d'obéir à la loi, mais la loi de Dieu, c'est celle-ci hein, ». C'est ce qu'il affirme à propos du divorce et du remariage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la société de Jésus, les femmes sont finalement comptées pour rien. Et preuve en est, la réaction des apôtres à la fin de l'évangile, lorsque les femmes viennent annoncer aux apôtres qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Eh bien, les apôtres, que font-ils ? Ils ne se donnent à peine, alors selon les évangiles, ça diffère un peu, mais bon, on va dire qu'ils ne vérifient pas vraiment ce que leur annoncent les femmes, et ils pensent que ce sont des élucubrations de femmes qui sont un peu excitées, alors que pourtant les apôtres connaissent ces femmes, c'est Marie-Madeleine, c'est Marie, ils connaissent ces femmes, ils les ont vues suivre le Christ, ils les ont vues écouter le Christ, ils ont su qu'elles avaient été les seules au pied de la croix. Donc, malgré tout cela, malgré l'affection qu'ils avaient certainement pour elles, ils sont convaincus qu'on ne peut pas leur faire confiance, puisqu'il est dit à un endroit, les disciples ne les crurent pas et ses propos leur semblaient du radotage. Voilà dans quelle situation se trouvent les femmes à l'époque de Jésus. Elles ne sont pas dignes de foi, on ne les écoute pas. Et même dans ce cas extraordinaire de la résurrection du Christ et des femmes qui disent « nous avons vu Jésus, il est ressuscité », il y a de la part des hommes une incapacité à les prendre au sérieux. Voilà, donc vous voyez une situation de la femme quelque peu délicate, et cette situation a été aggravée parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque de Jésus, la culture juive, la culture hébraïque, issue de la Bible, avait subi une influence extérieure qui est celle de la philosophie grecque, puisque la Palestine a été occupée par les Grecs jusqu'à l'invasion romaine. Vous savez, l'histoire de la Palestine n'est qu'une longue histoire d'occupation qui se succède. Et l'occupation des Grecs a été particulière en ceci que, contrairement aux autres occupations précédentes, les Grecs, plus que les autres, ont voulu imposer leur civilisation, leur philosophie. Les Grecs, c'était un peuple de philosophes, par la force souvent, causera des révoltes chez les Juifs, ils ont imposé certains aspects de leur philosophie, de leur religion, de leur polythéisme. Voilà, donc... L'exemple le plus célèbre que l'on peut donner est un philosophe juif qui est de culture grecque, qui est ce qu'on appelle un hellénique, qui s'appelle Philon d'Alexandrie, qui a vécu à peu près à l'époque de Jésus, qui commente la Bible et qui la commande c'est très caractéristique chez lui, parce que ses commentaires introduisent des glissements dans la façon dont la femme est perçue. Parce que ce philosophe, Philon, il est donc influencé par les Grecs et il pense que les choses se réfléchissent. Bon, je vais aller très vite, mais les choses se réfléchissent en couple masculin-féminin, positif-négatif, âme-corps, esprit-matière. Il y a positif-négatif, donc c'est le masculin-féminin, positif-négatif, âme-corps, positif-négatif, esprit-matière. Et donc, vous voyez que c'est une façon de réfléchir qui a eu une grande influence en Europe. Et Le masculin ici est positif et le féminin est négatif. C'est comme cela qu'il réfléchit les choses. Et voilà ce qu'il dit. Le progrès n'est rien d'autre que le passage du féminin au masculin. Car le genre féminin est matériel, passif, tourné vers les sens, alors que le masculin est actif, rationnel, incorporel et porté vers l'esprit et la pensée. Donc pour ce philosophe, ce qui est du côté du corps est mauvais. Ce qui est bon, c'est ce qui est l'esprit, ce qui est la pensée, ce qui est incorporel. Il dit encore, le progrès n'est rien d'autre que le passage du féminin au masculin, car le genre féminin, ah, excusez-moi, je vous relis deux fois la même chose, je vous relis la citation, si le féminin est le lieu du sensuel, eh bien, le glissement, en fait, qui se fait, c'est que puisque le féminin est le lieu du sensuel, eh bien, par, je dirais que la conséquence est que puisque Ève est celle par qui la chute est arrivée, pense-t-il, il n'y a de là qu'un pas à croire que Ève a été beaucoup plus facilement tentée parce qu'elle était la sensualité et que de la sensualité à la connotation sexuelle, il n'y a qu'un pas et que donc Ève, qui est la sensualité, introduit le plaisir alors que Adam, le rationnel, qui aurait pu le repousser, a succombé devant la femme séductrice. Donc, vous voyez que dans cette comparaison de Philon est introduit la culpabilité portée par la femme en grande partie. C'est Ève qui est coupable, c'est Ève qui est responsable parce qu'on a presque l'impression qu'elle est venue faire la danse du ventre devant Adam. Or, le péché originel, c'est tout sauf cela. Mais c'est un petit peu comme ça que ça a été compris très longtemps. Le péché originel n'a rien à voir puisque le péché originel est commis par l'homme et par la femme et qu'il n'est rien d'autre que le refus de Dieu. Donc, il n'empêche que voilà un petit peu l'ambiance à l'époque de Jésus. Et il y a une conviction que Ève est coupable. Et cette conviction de la culpabilité d'Ève a tellement et réellement abîmé l'image et la vocation de la femme que finalement, cette femme qui, dans la Genèse, est donnée à Adam comme le vis-à-vis, comme l'aide qui lui soit adapté, qui lui est donné comme celle avec laquelle il est dans le bonheur, eh bien, la vocation de sa femme, de cette femme, va se réduire alors à une succession de tâches. Hein, son statut d'aide, de vis-à-vis, comme je vous le disais, eh bien, il fait place à un statut qu'il a réduit à enfanter pour prouver que Dieu bénit son mari. À s'occuper de la maison. Voilà le statut de la femme. Et nous avons vu que la fécondité des femmes de l'Ancien Testament, qui est une donnée essentielle parce qu'elle manifeste la bénédiction divine dans l'Ancien Testament avec Abraham, avec tous les dons d'enfants, hein, et bien cette fécondité qui correspond au commandement divin qui correspond à la volonté de Dieu, elle est devenue à l'époque de Jésus un critère essentiel de la reconnaissance sociale de la femme. Si la femme n'a pas d'enfant, eh bien elle est maudite. Et finalement, eh bien la femme est réduite à cette fonction. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 9, vous avez peut-être en mémoire ce tout petit passage où l'on voit une femme qui crie au passage de Jésus « Heureux le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as sucées. » Et Jésus répond de façon un peu abrupte, mais très claire « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas question ici pour Jésus, il n'est pas question pour le Christ de diminuer la personne de sa mère Marie. Il ne l'évacue pas en disant « Non, mais ça n'a aucune importance, ce qui est important, c'est de m'écouter parler. » Non, au contraire, ce qui apparaît dans cette réponse de Jésus, c'est plutôt d'annoncer que la béatitude de la femme est la même que celle de l'homme. sans qu'elle soit une chose, sans qu'elle soit chosifiée à cause de ses capacités de reproduction. Ce qui manifeste la bénédiction sur Marie, ce n'est pas d'avoir enfanté, mais c'est bien d'avoir accueilli la parole de Dieu, car qui, plus que Marie, a accueilli la parole de Dieu jusqu'à lui donner chair par le fiat de l'Annonciation ? Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, qui donc, mieux que Marie, a écouté, accueilli la parole de Dieu, puisque cette parole de Dieu, elle a pris chair dans les entrailles de Marie. Donc vous voyez que Jésus redresse par petites touches, il redresse petit à petit la perception l'on pouvait avoir de la femme et de son rôle à son époque. Le rapport de Jésus, donc, avec les femmes, finalement, nous pouvons dire que c'est un rapport qui est un petit peu hors norme pour son époque. Nous verrons tout au long de l'année comment est-ce que les actes de Jésus envers les femmes, et vous le savez certainement, vont provoquer de l'irritation, vont provoquer de l'incompréhension. Il y a chez Jésus une attitude qui est totalement nouvelle, qui est totalement inconnue pour ceux qui l'entourent. Et cet état d'esprit de Jésus envers les femmes, eh bien, il est extrêmement novateur, parce que le point commun de toutes les rencontres racontées dans les évangiles, eh bien, c'est ce point commun, c'est la restauration des femmes dans leur dignité. Le point commun de toutes les rencontres qui sont racontées dans les évangiles, eh bien, c'est la dignité dans laquelle la femme est réinstallée selon ce qu'elle avait reçu à l'origine. À l'origine, elle était destinée à un vis-à-vis avec l'homme dans la plénitude de sa propre vocation de femme. Eh bien, Jésus va aussi, et en même temps, je dirais, où Jésus va de toutes les façons restaurer aussi la femme dans sa vocation des origines. Ainsi donc, Jésus, pour revenir à la belle-mère de Pierre, de Simon, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Et lorsque nous lisons le passage dans ces différentes versions, il y a l'épisode est raconté de façon différente, mais il y a une chose que l'on retrouve dans les trois versions. Et cette chose que l'on retrouve, c'est un mot, c'est un verbe que l'on retrouve dans les trois versions. C'est un verbe qui, en grec, est utilisé aussi pour parler de la résurrection. Se levant, elle les servait, elle se leva pour les servir. C'est un verbe qui, dans les évangiles, est utilisé pour se lever, mais c'est utilisé dans le sens de la résurrection. L'auteur, donc, a bien l'intention que il veut nous dire que ce que Jésus fait, ce n'est pas seulement de guérir, mais que ce que Jésus fait est bien plus profond que cela, parce que la guérison de cette femme est une véritable renaissance. Et cela est confirmé par la conclusion qui dit « Elle servait Jésus, elle n'a pas été remise dans une condition subalterne ». Non, au contraire, le verbe « servir » porte en lui bien plus que le fait de nourrir ou de gérer les choses matérielles. Non, le service dans l'évangile, c'est le privilège et c'est l'obligation du disciple. Le disciple doit servir, ne pas être servi, mais servir. La belle-mère de Pierre est guérie, relevée comme ressuscitée et appelée au service. Elle devient disciple, puisqu'elle sert Jésus et ceux qui l'entourent. Donc, le service, qui est une tâche extrêmement noble et qui est un appel pour chacun d'entre nous, fait partie de cette résurrection. Et donc, nous voyons que la conclusion, à l'instant même, se levant, elle les servait, eh bien, nous apprend que la belle-mère devient disciple du Seigneur. Voilà une première petite pièce de notre puzzle. Pour Jésus, la femme est appelée à être disciple. Et il lui tend la main et par le toucher avec Jésus, eh bien, la femme est guérie de tout mal. La femme, en le touchant Jésus, fait sur elle une œuvre de résurrection et une œuvre d'appel à le servir. Voilà, je vous remercie pour ce temps passé ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis eh bien, à dans un mois.